Avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler de notre village d'Unmisslo. Nos podcasts existent pour vous inspirer et nous vous proposons à présent d'incarner vos aspirations par des expériences concrètes grâce à un abonnement au village. Tous les mois, et pour toute la famille, vous pouvez vivre dès à présent une vie qui respecte votre rythme naturel, vos besoins et incarne vos convictions. Pas de recettes ni d'injonctions et encore moins de culpabilisation, juste un accompagnement à incarner ce qui est essentiel dans votre quotidien. Une vie slow, douce et joyeuse, alignée sur votre essence. Bref, pour en savoir plus, rendez-vous sur www.unvislow.fr. Belle écoute! Du slow dans mon postpartum, la série qui raconte l'initiation vécue par les couples pendant la période du postpartum. Les témoignages autour du postpartum sont souvent associés aux expériences vécues par les femmes, or il y a une véritable opportunité d'enseignement pour le couple. Ainsi, nous avons à cœur de vous partager les témoignages et cheminements que les couples vivent tout au long de cette aventure. Nous sommes Chloé
et Nicolas, et vous écoutez les podcasts d'Une vie slow.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série du slow dans mon postpartum. Aujourd'hui, c'est avec joie que je vous présente notre sage-femme Alexandra. Une bonne fée, une confidente, une guide, un soutien. Bref, notre sage-femme est l'un des piliers de notre aventure initiatique durant la grossesse et continue de l'être et de nous accompagner dans notre postpartum. Vous découvrirez chaque instant de notre collaboration durant la grossesse dans notre livre, mais pour l'heure, nous avions envie de partager les perles de son rôle tout au long de notre mois d'or, slow et plus encore. Bonjour Alexandra et bienvenue chez Nislo.
Bonjour Chloé.
Bon, on va pas se mentir, on est amis, on parle, on se tutoie, on rigole ensemble.
Voilà.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer ce moment, je t'invite à te présenter et à présenter surtout ton métier, comment tu le pratiques.
Alors, je suis Alexandra, sage-femme. Depuis mes études, je me suis questionnée sur la façon de donner naissance. Et je me suis progressivement orientée vers la naissance à domicile, vers plus de physiologie, d'autonomie, pour donner un maximum d'informations au couple, pour qu'ils puissent faire des choix éclairés et être acteurs de la naissance. Donc, c'est vraiment ma façon de travailler. Et voilà, le métier de sage-femme, c'est d'accompagner les couples durant la grossesse, durant la naissance et dans le postpartum. Et puis plus encore, l'allaitement, la sexualité, la gynéco. Voilà, le suivi global. Oui. De la femme et du couple et de l'enfant.
C'est d'ailleurs ça pour lequel on a vraiment apprécié partager ces moments avec toi. Il faut dire que ben voilà, tu me suis aussi en suivi gynéco, comme on veut dire. Hein, Et c'est vrai que quand on a appris que j'étais enceinte, on a tout de suite pensé à toi. Et c'est vrai que ben, ton accompagnement, il est global. Il comprend le couple et pas seulement la femme. Et ça, ça nous a préparé aussi à vivre aujourd'hui notre parentalité. Donc merci Alex.
Avec joie, et c'est vraiment magique pour moi de pouvoir faire ce suivi global, de t'avoir suivi en gynéco, et ouais. Puis ensuite d'avoir suivi votre projet, et puis de réaliser que vraiment t'es enceinte, et on t'allie, on y est, on va vivre encore une autre étape de ta vie de femme.
Oui, c'est vrai qu'en fait, tu suis vraiment les femmes et les couples tout au long de leur existence, en fait, et tout au long de leurs aventures, finalement. Et c'est ça, j'ai vraiment la sensation aussi que développer, en fait, cette relation si proche dans chaque étape de ma vie de femme à tes côtés, en fait, m'a permis aussi de donner naissance avec confiance à mon enfant, justement, à domicile, puisque, il faut le dire, tu accompagnes les couples à accoucher à domicile. Et c'est vrai que cette proximité, cette relation-là, le fait que tu connaisses exactement comment ma physiologie est faite, comment je réagis, qu'on ait passé du temps à échanger, et que durant cet événement si fort qu'est l'accouchement, du coup, tu puisses être là aussi, m'a permis personnellement de pouvoir être totalement en laisser être, en fait, pour me laisser traverser par la naissance, et en me disant « Ok, je suis en sécurité
». Ouais, c'est ça, c'est hyper important pour moi de connaître l'histoire de la femme, du couple, et de savoir là où il y a des peurs, pour pouvoir guider au mieux possible durant la grossesse, et le jour J, en plein dans le feu de l'action, s'il y a quelque chose qui apparaît, ben au moins on se connaît. Ouais. On sait peut-être le mot qui va pouvoir faire lâcher prise et laisser le processus se passer, quoi.
Moi, j'ai une première question à te poser. C'est l'une de nos discussions qu'on peut avoir avec toi et Nicolas. Hein, par rapport justement au postpartum et comment est vécu le postpartum, c'est vrai que ben voilà, on s'appelle régulièrement, toi et moi. Mm. pour faire un peu le point, quand j'ai des doutes, même par rapport à ma physiologie ou tout simplement avec ma sexualité avec Nicolas. Est-ce que tu vois une différence entre les couples que tu suis comme ça du début du projet, etc., et ceux que tu accompagnes à la physiologie de l'accouchement mais qui vont accoucher à la maternité, qui sont peut-être venus te voir au moment où la grossesse s'est présentée? Pour toi, il y a quoi comme différence dans le suivi et qu'est-ce que tu observes auprès des couples, en fait, qui vivent comme ça, cette aventure?
Vraiment par rapport au postpartum
Oui, parce que là, on parle du postpartum. Ouais.
Bah, une préparation qui est différente. Il y a beaucoup de questions qui ont pu être abordées déjà avant. Et le fait d'être déjà chez soi, il n'y a pas ce retour à domicile à appréhender. Les marques, on a déjà pris nos repères d'être chez soi. Il y a une transition beaucoup plus douce d'être dans son cocon. Et je trouve que l'émotionnel est beaucoup plus stable aussi après. Après, il y a le lien entre nous qui est encore plus fort. Donc, s'il y a des questions qui peuvent paraître taboues, là, elles peuvent être abordées, notamment la sexualité, on va plus prendre le temps de voir comment les liens s'installent. C'est encore plus fluide d'avoir été présente à la naissance.
Est-ce que les couples, justement, osent parler, tu sais, des fameuses questions taboues, quand est-ce qu'on peut faire l'amour, est-ce qu'on peut faire l'amour, hein, au sens caresse, câlin, pendant l'accouchement, est-ce que cette relation si proche, en fait, de l'accompagnement global, est-ce que tu sens que les couples sont plus ouverts à ça?
Ouais, c'est clair.
Ouais.
Et des femmes qui peuvent oser aussi se caresser pendant l'accouchement, qui osent poser la question de « en fait, là, j'ai du désir, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Je me l'autorise ?» Et qui osent poser cette question-là. Si on se connaît pas assez, on n'ose pas forcément poser ces questions-là. Mmh. Et là, on a été vraiment dans une étape des plus intimes, ensemble, dans la maison, pour la naissance. Donc, ces questions peuvent se poser là. Et j'observe des couples qui sont aussi beaucoup plus à l'aise avec leur corps, et du coup, leur sexualité, et du coup... peut-être plus une bonne communication dans le couple, et du coup la sexualité elle peut aussi
s'exprimer
là, dans des caresses, dans des peaux à peau, dans des temps, et s'autoriser ça.
D'accord, ok. Ok, et ça vraiment tu vois la différence en fait aussi sur le retour après la naissance, sur la qualité du postpartum, de la mise en place d'un allaitement ou tout simplement d'une stabilité émotionnelle chez le couple et chez la femme?
Ouais, vraiment. On entend beaucoup parler des dépressions postpartum, des baby blues, postpartum blues. Ben en fait, là, j'en vois vraiment, vraiment peu. Il y a toute cette présence à la maison. On a vraiment préparé le retour de la naissance, que chacun puisse prendre sa place, être à l'écoute de ses émotions. Donc, les femmes, je les trouve de vraies superwoman, de s'en remettre... hyper facilement, que c'est vraiment beaucoup plus fluide, elles peuvent prendre le temps encore plus de se poser les questions déjà en amont.
Parce qu'il faut dire que durant tout ton accompagnement, durant toute la préparation qu'on vit avec toi, c'est vraiment des questions. C'est pour ça que nous, on parle du chemin initiatique du couple, en fait, durant la grossesse, et ce chemin initiatique, on le continue dans le postpartum. Mais c'est vrai que tout ça, en fait, toutes ces questions, c'est pour ça qu'on parle d'initiation et d'enseignement. Ouais. Sont abordés durant la préparation.
Ouais.
Et c'est vrai que du coup, une préparation, on va dire, moins individualisée, donne pas forcément naissance à tous ces questionnements et tout ce chemin-là. En tout cas, c'est ce qu'on a observé avec Nicolas.
Mmh. Merci. Et c'est vraiment ça qui me plaît, de pouvoir avoir un discours hyper ouvert et pas de prépa systématique. C'est vraiment quelles sont les questions là, de quoi vous avez besoin, et qu'on puisse répondre au plus juste. Et du coup, on voit après la naissance qu'en effet, les choses se mettent en place facilement, et tu parlais de l'allaitement, ben voilà, c'est assez fluide, beaucoup d'allaitement maternel après un accouchement à la maison, et ça se met en place très facilement. On sait que c'est l'ocytocine qui fait sortir le lait, et l'ocytocine, on en a besoin certes pour l'accouchement, mais aussi après. Donc ça veut dire qu'une relation de couple qui est saine, basée sur la communication, puisse poser nos émotions, rien que de retourner de la maternité à chez soi, niveau émotionnel, peut-être un peu moins d'ocytocine, on se stresse, comment on va rentrer, on s'organise. Mmh. Du coup, l'allaitement, c'est pile poil au moment de la montée de lait, où on rentre chez soi en général.
D'accord.
Donc ça peut entraîner des fois des petits engorgements, mastite, une question si le papa peut être présent ou pas.
Oui.
Souvent, c'est vrai, pour l'accouchement à domicile, le papa s'organise pour être très présent.
Ouais.
c'est pas une obligation, mais c'est la majorité de ce que je rencontre, et du coup, ben, les allaitements, ils sont assez fluides.
Oui, c'est vrai que là, enfin, moi, j'ai la sensation que, et il peut en parler, hein, d'ailleurs, parce que Nicolas est avec nous. Mais j'ai vraiment la sensation, justement, que le papa a toute sa place, en fait, dans l'accouchement à domicile, ça c'est certain, même ouais. S'il a toute sa place aussi à la maternité, attention, hein. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment, on va dire que son rôle est vraiment porté et désiré dans l'accouchement à domicile pour respecter la physiologie, pour respecter les... Oui, les besoins de tes besoins pour pouvoir avoir du soutien, pour mettre en place du matériel ou voilà, dis-moi si je me trompe, mais en tout cas c'est comme ça que on a été préparé.
Et puis le papa est chez lui, donc il est dans son royaume. C'est la sage-femme qui vient au service du couple, donc c'est déjà un positionnement différent. Donc le papa, il peut encore plus facilement prendre sa place à la maison. Il sait où se trouvent les choses, il peut organiser un bain, il peut aller chercher le ballon, il peut aller faire un petit jus, voilà, tout est là. Il peut faire une sieste dans son lit si à un moment donné il se sent dépassé, il a envie de se faire une petite pause aussi, il est beaucoup plus confortable quoi.
Ouais.
C'est vrai que pour moi, l'accompagnement qu'on a fait avec toi, je l'ai énormément apprécié parce que j'ai pu avoir des doutes à des moments donnés ou besoin juste d'avoir ton avis, pas celui de ma femme. Mais celui de mon professionnel, en fait, pour la préparation à la naissance. Et plus ça avançait et plus je me sentais en compétence, apte. J'ai pu aussi avoir le temps de lire aussi un livre qui m'a permis de me mettre en confiance. Et c'est vrai que bah, ma place, moi, au sein de cet écosystème, je l'ai vraiment trouvé facilement. Déjà, dans mon couple, c'était clair. J'ai pu comprendre aussi le rôle qui était le mien pour le jour J de l'accouchement, du coup, à domicile, que j'avais vraiment besoin de prendre des décisions et de connaître tout ce qui se passait dans mon foyer. Et c'est vrai que la préparation m'a permis de, petit à petit, en fait, prendre cette confiance et ce nouveau rôle qui allait être le mien dans les jours qu'on suivit, quoi.
Je t'ai trouvé super présent, d'autant plus d'avoir organisé la naissance à la maison et dans vos choix. Il n'y avait pas que des questions de la maman, c'était aussi des questions du papa. Donc c'était vraiment, je m'adressais aux deux en même temps. Et t'avais des questions super pertinentes qu'on m'avait jamais posées aussi.
Ah ouais?
Dans tous les choix que vous faites, tu prends vraiment ta place aussi.
Bah c'est vrai, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que j'ai pas attendu d'avoir un professionnel de la santé pour pouvoir déjà me connecter à ma femme, savoir où elle en était, prendre en charge notre bien-être et donc le sien et le mien. Et c'est vrai que ça vu que ça fait vraiment partie de notre définition du quotidien, quand j'arrivais te voir, je te rappelle quand on faisait les séances, bah moi j'avais déjà observé plein de choses, plein de signaux, on avait déjà réajusté, mis en place des ajustements, et finalement quand on venait te voir, c'était surtout des confirmations quoi. Toi tu étais là, tu étais, bah ça c'est super, bah ok, donc j'ai rien à faire, et c'est ça qui était rigolo finalement, c'est que ça nous a permis d'éprouver aussi notre agilité, avant même d'avoir la naissance et d'avoir bébé qui soit dans notre quotidien.
Et dans le postpartum c'était pareil? Des fois, j'avais l'impression de venir juste borloter. Vous m'expliquiez tout ce que vous aviez réussi à mettre en place et vous aviez juste besoin d'un « Ah ouais, c'est super ce que vous faites, c'est bien ça. »
T'en avais besoin de la prescription. Mais oui, c'est sûr que bah après, on essaye d'être connecté effectivement à ce qui se passe en nous, ce qui se vit en nous. On l'expérimente depuis plusieurs années maintenant. Et d'avoir en plus bah, le même son, le même discours avec le tien, c'est vrai que ça nous conforte encore plus dans ce chemin-là. Et ben à tous les trois, c'est vrai qu'on a vraiment bien avancé pendant cette période-là, et ça a été un accompagnement qui a été profond et qui a été chouette en fait à vivre pour tous les trois.
Et donc je retourne encore vers le postpartum. Moi j'ai besoin de savoir toi quand tu vas avoir une femme en fait ou un couple, qu'est-ce que tu observes pendant cette période si délicate en fait? Quels sont les points d'attention que tu observes, et tu sais que si tiens ce point d'attention là n'est pas apporté, le couple est en déséquilibre, est-ce que tu as réussi à identifier des points ou pas?
Je pense que je fais des choses sans me rendre compte forcément, ouais, de l'élaborer avec toi comme ça. Déjà il y a le côté physiologie de la femme dans son corps, physiologie du bébé, dans la prise de poids, l'allaitement, et dans la relation de couple, il y a le couple parental qui est déjà en place, et voir comment ça se passe, comment chacun peut prendre son rôle, et la dyade mère-enfant, mais comment le père aussi prend sa place. Et il y a le couple amoureux aussi, à ne pas oublier sans se dire 6 mois après, ah au fait, oui, ce bébé là c'est le fruit de l'amour et donc on en est où dans notre couple?
Ouais.
Et c'est vraiment des choix, comme tu me le partageais l'autre jour, de prendre ces temps-là ensemble.
Ouais.
Et ça, c'est un point que j'observe de plus en plus. Est-ce que le couple a le temps de se retrouver et prend ce temps-là?
Oui, oui, c'est d'ailleurs l'un des épisodes qu'on a envie de vous partager. C'est autour de notre sexualité, comment on le vit avec ce postpartum et comment ça se met en place. C'est quelque chose qu'on a abordé avec toi comme sujet.
Ouais.
Et c'est vrai que nous, rapidement, on a eu envie de se faire des câlins, de se faire des caresses, de se faire des bisous, d'éventuellement avoir des rapports au sens pénétration. Mais voilà, on a eu envie de faire l'amour, quoi, au sens large du terme. Et c'est vraiment des questions qu'on t'a posées. On en a parlé ensemble.
Oui.
Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue de sage-femme? Qu'est-ce que ça a nourri en toi en tant que sage-femme,
du coup. Moi, je vous ai trouvé formidable déjà de pouvoir exprimer ce besoin-là, d'être à l'écoute. Ok, bah là, il y a du désir, en effet. On a envie d'organiser des temps et on attend souvent une validation. Est-ce que je peux physiologiquement? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que mon périnée va bien? Ben oui, en fait, aucun problème. Surtout si l'envie est là, c'est que c'est ok de se faire confiance. Et j'ai adoré que vous puissiez vous rendre compte que c'était là déjà et que vous étiez prêts. Voilà, il n'y a pas de tabou dessus, il n'y a pas de normes, de temps, des personnes qui vont avoir envie au bout de 6 mois, et d'autres au bout d'un mois, d'autres, voilà, que tout est ok et de ne pas se mettre de pression dessus. Et j'ai bien aimé le moment où on avait rigolé dessus, c'est une prescription médicale aussi. Hein, faire l'amour, oui, c'est bon pour le périnée. remuscler le périnée, ramener des sensations, ramener du tout doux dans cette zone-là aussi.
Ouais. Ramener de la douceur, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait parlé. Tu nous avais dit tout de suite, mais vous n'êtes pas obligé de faire l'amour avec des pénétrations, même c'est si ça. Nous, c'est notre manière aussi de faire l'amour. On n'est pas obligé de passer par les pénétrations. Et ça, on le développera dans l'épisode sur la sexualité, mais c'est vraiment s'autoriser en fait la douceur, à reprendre contact avec voilà une zone qui a été éprouvée, pour laquelle il s'est passé de grandes choses, et juste pouvoir recontacter en fait ces zones-là, ou une autre zone de son corps, mais en tout cas juste ressentir en fait la douceur du contact avec son amoureux. Enfin, personnellement, nous, ça a été une forme de célébration, quoi. On avait fait l'amour pendant 9 mois, ouais. Parce que c'est pour nous, la grossesse a été vraiment faire l'amour pendant 9 mois, et on avait encore fait l'amour en donnant naissance à notre enfant, dans le sens où il y avait tout ce contact visuel, cet encouragement, cette union dans la voix, dans la direction, dans voilà, on était vraiment unis, et c'est comme si maintenant qu'on a le fruit de notre amour, on a encore envie de faire l'amour pour célébrer ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et c'est vrai que le fait que tu nous encourages aussi à ça et qu'on ait pu ouvrir notre cœur à bon, on sait que ça fait que quelques semaines.
Même dans des temps de peau à peau, quoi.
On ouais, dit, c'est ça.
Peau à peau avec bébé, ben oui, mais en fait, dans le couple aussi, on a le droit à ce temps-là. Et puis, ça recharge le couple et en ocytocine. Du coup, l'allaitement, ben, se passe super bien. L'ocytocine. Le périnée est super content. L'utérus, lui aussi, se contracte avec l'ocytocine, donc il se remet encore plus vite en place, potentiellement aussi.
C'est ça, ouais. Ouais, c'est vraiment des choses, moi, que j'ai senties dans ma physiologie, en fait. Hein. Vraiment, il y avait cette idée de faire l'amour pendant la grossesse avec mon gros ventre, avec mes rondeurs, avec etc. Et en même temps, après, me réapproprier mon espace personnel et être de nouveau juste en relation avec mon mari sans avoir bébé au milieu de nous.
Ouais.
Et après, continuer aussi à, entre guillemets, faire l'amour. Attention, pour moi, faire l'amour, c'est pas juste un acte de coït. Mais il y a aussi ces temps, justement, on parlait de peau à peau, mais ces temps, justement, d'allaitement où je suis vraiment en peau à peau avec mon chéri et en peau à peau avec mon bébé, sur le côté allongé, j'ai mon bébé au sein, j'ai mon mari qui est contre ma peau, et c'est juste un moment de douceur et d'amour, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai la sensation que l'ocytocine, elle est vachement présente, en fait. J'ai l'impression d'avoir une continuité d'ocytocine, en fait.
Ouais.
Pendant tout ce postpartum,
c'est ça.
En fait.
Et on n'en parle pas assez, que après, c'est hyper important.
Ouais.
Pour se remettre vachement bien et que l'harmonie se fasse pour toute cette nouvelle famille. Ouais. On a besoin de cytocine tout le temps.
C'est ça, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on te partage régulièrement avec Nicolas, en mode vraiment hyper surpris, en mode « mais je suis vraiment en forme, en fait !» Ouais. Tu sais, c'est vraiment un truc « waouh, je suis vraiment en forme, en fait !» Mon c'est corps, ça. Il est...
Et t'as même pris le temps de faire des exercices pour toi le matin, ouais. Des temps d'étirement, de respiration. Et ça, c'est aussi possible parce que t'étais directement chez toi, t'es à ton rythme, tu peux dormir dans ton lit, tu ouais. peux te lever à l'heure que tu veux, te réveiller comme tu veux, faire une sieste comme tu veux. Il n'y a pas de visite déjà oui. organisée. C'est toi qui es responsable des allées et venues chez toi.
Oui.
Du coup, ben, si t'en as l'envie, tu peux organiser un petit temps d'étirement quand ton bébé... Et en pause dodo ou en pause portage avec papa.
Si c'est vraiment quelque chose que j'ai senti de différent dans mon postpartum de mon premier enfant et le postpartum là de ma petite fille, c'est vraiment en fait cet espace qui était disponible H24 en fait, où j'avais la possibilité de juste me retrouver avec moi et être sûre que mon bébé soit entre de bonnes mains entre guillemets et en sécurité avec ben son référent.
C'est ça.
Parce que je suis référente de mon bébé, mais du coup, elle a aussi un autre référent qui est son papa. Et du coup, j'ai pu sentir vraiment que ben, les rôles étaient vraiment bien définis et en même temps totalement partagés dans la gestion.
Oui, ben c'est ça aussi. Vous êtes chez vous,
ouais.
Donc le papa, est, s'il est présent, il est vraiment là, chez lui, et vous pouvez vous organiser comme vous voulez.
Il ouais.
n'y a pas de contrainte d'organisation dans les allées venues. Des fois, en maternité, papa peut pas toujours rester dormir.
C'est
et c'est un peu compliqué les premiers
ça.
Jours où chacun prend sa place.
Ouais.
L'allaitement, c'est un job à 20h sur 24. Donc, ouais. D'être soutenu à deux dans son propre rythme, dans son propre environnement, ça rajoute un petit cran de douceur.
Ouais. Mais d'ailleurs, ça a été pour moi l'une des premières nuits, justement, où ben, pour moi, c'est là où c'est plus compliqué par rapport aux sensations, par rapport peut-être aux doutes que j'ai pu avoir ou aux difficultés que ben voilà parce que ben il y a un allaitement qui se met en place donc il y a des douleurs parfois au mamelon, des doutes parce que est-ce que je suis capable de etc.
Ouais.
Et le fait d'avoir vraiment Nicolas tout le temps avec moi qui en plus désire autant que moi même peut-être plus que moi que l'allaitement se mette en place et que ça fonctionne etc. a pu, dans des moments à 3h, 2h du matin, où je suis en train un peu de galérer, de paniquer parce que je suis fatiguée, parce que voilà, j'ai un peu peur que ça se mette pas en place, etc. Et que lui puisse me dire « Non, non, mais regarde, ça se passe bien. » Et que après, du coup, même s'il y a un doute et qu'il m'a rassurée pour la nuit et que j'ai réussi à allaiter, je puisse t'appeler vers 9h du matin et pas à 6h parce que c'est l'heure où tu passes dans la chambre et que je puisse t'appeler parce que j'ai eu le temps de dormir etc. en disant voilà cette nuit j'ai eu un petit moment de doute, est-ce que tu peux me rappeler les points d'attention. C'est vrai que c'est hyper
ouais et hyper c'est ce confort, qui me plaît quoi. Dans le suivi global c'est
ouais.
de pouvoir être vraiment présente et disponible aussi parce que ces questions là finalement toutes les mamans se les posent mais c'est la façon d'y répondre qui peut être différente selon comment on s'est organisé. C'est vrai que d'avoir un référent professionnel de santé tout le long de la grossesse, pour l'accouchement, pour le postpartum, qui va avoir un discours commun, à qui on a déjà expliqué notre histoire, les doutes par rapport au premier bébé, au premier accouchement.
Ouais.
Ben, ça va être... On va être allé droit au but en appelant directement cette personne-là comme qui a déjà notre histoire.
Exactement, ouais. Et puis du coup, j'ai senti aussi ce côté... Ben, j'avais toujours le même discours, en fait.
Oui,
tu vois, j'ai pas eu des points d'information différents. Pourtant, j'ai un cercle de soutien et on va en parler juste après, parce que il me semble important, parce que tu fais partie du cercle de soutien.
Oui.
Mais du coup, mes professionnels de santé ont toujours été les mêmes, que ce soit en ostéopathie, en énergétique, que ce soit en médecine aussi, en pédiatrie, etc. C'est toujours les mêmes référents que j'ai. Et du coup, j'ai toujours eu la même continuité, en fait, dans le discours. Et j'ai senti vraiment que ce qui m'avait mis en difficulté dans le premier postpartum, ça a été ces différents discours et où moi, il fallait que je trouve mon discernement à l'intérieur de ces différents discours.
Et oui.
Et du coup, ça me mettait en insécurité et je pense que ça m'a mis aussi en difficulté au niveau ben, de ma confiance en moi et donc ça a déclenché peut-être aussi ben, des baby blues, des burn-out,
ouais.
etc. Pour en avoir eu plusieurs, c'est pas un secret hein, puisque j'en parle très bien. Mais là, c'est ce que je sens. vraiment sur ce postpartum-là, cette nouvelle maternité, c'est qu'il y a une continuité dans le soutien. Que j'ai, il n'y a jamais personne qui me dit « mais tu devrais faire comme ci » ou « tu devrais faire comme ça ».
Ouais. C'est sûr que ce qui m'intéresse, de, comme je disais au début de notre rencontre, c'est donner des informations et que les couples puissent choisir. Il n'y a pas une méthode parfaite. Alors, c'est sûr que moi, je suis passionnée de physiologie, mais que les couples puissent choisir en conscience et être autonomes dans les choix. Et donc, de pas dire qu'il y a cette méthode qu'il faut faire et que c'est comme ça, mais plutôt, qu'est-ce que tu sens là, qu'est-ce que tu as envie de faire, et regarde ce que tu es déjà en train de faire, que tu es déjà capable, tout ce qui est déjà là.
Ouais, ça c'est vraiment quelque chose que tu nous répètes vraiment régulièrement quand on a un doute. Moi j'ai eu notamment des petites inquiétudes autour de tout ce qui est respiratoire pour notre petite fille. Et quand j'étais, on va dire, embarquée dans mon inquiétude, la première chose que tu me dis quand je t'appelle c'est « mais regarde ce qu'elle fait, regarde comment ça se passe, regarde ce que tu mets déjà en place. Est-ce que tu as besoin de mettre... d'autres choses en place. C'est vrai que ce questionnement-là, en fait, le fait d'avoir une personne tierce qui te dise « mais regarde », enfin, personnellement, moi, ça m'a permis de juste me connecter à ma compétence et à la compétence de mon bébé.
Ouais.
Du coup, je fais vachement confiance, en fait, à ma petite fille, aussi petite soit-elle.
C'est génial.
mais notamment sur les voies respiratoires qui m'inquiétaient vachement. Et du coup, maintenant, je l'observe et je vois ce qu'elle fait, en fait, pour pouvoir, du coup, subvenir à son besoin, quoi. Donc c'est vachement rassurant.
Il y a souvent plein de questions qui sont pas médicales, en fait, c'est pas des problèmes, c'est juste remettre ça dans le... Regarde, juste ça, c'est de la physiologie, tout va bien, et c'est s'adapter à ce bébé, et que ce bébé s'adapte à ses parents-là, et comment la rencontre se crée.
D'ailleurs, tu me partageais l'une de tes expériences lors d'une consultation, parce qu'il faut dire aussi qu'on par mon métier, parfois on parle aussi, ben voilà, moi j'accompagne les familles, toi tu accompagnes aussi les couples et les jeunes parents. Parfois voilà, on s'appelle pour dire tiens, là j'ai telle chose, qu'est-ce que tu en penses, etc. C'est très intéressant, on se nourrit. Et tu me partageais l'inquiétude d'une maman qui te partageait son inquiétude à être finalement faire le bain, je crois, seule avec son petit et puis tout aller vers ça. Et il me semble que, en fait, en déroulant la conversation, tu t'étais rendu compte que, en fait, elle avait juste peur d'être seule, en fait, avec son bébé.
En fin de consultation, c'est du coup un peu, bon, bah, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment ça se passe? Là. Et c'était, en fait, j'arrive pas à être toute seule avec mon bébé. C'est pas possible, je suis pas capable. J'ai besoin d'être avec le papa. Alors, je disais, bon, donc, par rapport à quoi, quel événement? Et puis, en fait, en décryptant, on a remarqué que, bah, finalement, quand elle lui donnait le biberon, c'était un peu stressant parfois, elle avait peur qu'il y ait un petit renvoi, tout ça. Et puis, en posant les choses, bah, elle se rendait compte qu'elle y arrivait super bien. Ouais. Que papa, il intervenait jamais, il était juste là, présent. Ouais. Et puis, que finalement, le change, c'était facile, que dormir avec, c'était tout à fait sans problème, et que c'était juste finalement le moment du bain où elle avait besoin d'être rassurée et de le faire à deux. Et comme beaucoup de couples qui ont envie de faire le bain à deux, il y a l'eau, voilà, on a toujours peur de faire glisser bébé, voilà, il y a des petites inquiétudes. Et finalement, c'était juste ça. Donc elle a réalisé que tout ce qu'elle avait mis en place, bah, elle arrivait très bien à le faire seule, en fait, et qu'elle était capable de s'occuper de son bébé. Et voilà, on a pu déconstruire ensemble... la peur qu'il y avait derrière, de dire, en fait, dans toute une journée où t'as l'impression de ne pas pouvoir être avec ton bébé, toute seule, ben, c'est juste le moment du bain, quoi.
Mais donc,
c'est pas grand-chose, finalement.
Ouais. Et c'est vrai que cette écoute-là, en fait, du professionnel de santé qui t'accompagne, et ce temps-là que tu prends, en fait, parce que c'est du temps, en fait, que tu prends, c'est ça qui est important, encore une fois, on revient sur l'Oslo. Mais c'est encore une question de temps et de qualité de temps et de présence, en fait, que tu offres au couple, qui permet au couple, en fait, de pouvoir aller au fond de la problématique pour trouver sa solution, en fait. Et j'ai la sensation que si on vient juste dans ton cabinet et qu'on passe 20 minutes, enfin, il y a quand même cet espace-temps qui est important. Parfois, ça peut se faire en 20 minutes, mais cette présence-là et juste cette connexion que tu peux apporter au couple, j'ai la sensation que l'une des clés de la physiologie et du bien-être dans ce moment-là, réside là-dedans. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, je suis d'accord avec toi. Finalement, c'est un peu comme l'accouchement. La femme, elle a besoin de personne pour donner naissance. juste de personnes qui sont présentes et qui croient en elles. Ouais. Ben, le postpartum, c'est pareil, sauf qu'on n'en parle pas du tout. Ouais. Et souvent, voilà, la femme a donné naissance, tout va bien, bébé est en santé, maman aussi, alors on est bon, et la vie reprend. Mais non. En fait, non, la femme, elle a besoin d'être soutenue, écoutée, et d'avoir de la présence autour d'elle pour qu'elle puisse exprimer ses capacités, son potentiel de mère, qui est là en chacune.
Mais d'ailleurs, ça me donne directement accès à ce dont je voulais parler, c'est le cercle, quoi. Le fameux cercle de soutien que le mois d'or permet et invite à mettre clairement en place. Le slow, nous, on aime bien le mettre en place dans toute notre vie.
Ouais.
Ce cercle de soutien, cette communauté, ce village autour du foyer. Aujourd'hui, tu en fais partie.
Oui.
Du nôtre. Du fameux groupe de cercle de soutien de notre petite déesse sur WhatsApp.
Donc on aura plein de photos, plein de vidéos en exclusivité.
C'est ça. Qu'est-ce que cette expérience-là, vraiment de l'intérieur, parce que tu es dans ce cercle de soutien à titre d'amie avant tout, plus qu'à titre de sage-femme. Mais quelle est ton expérience? Qu'est-ce que tu peux témoigner de ça?
J'ai trouvé ça super beau et vraiment essentiel d'avoir ce cercle sur lequel la femme peut vraiment se reposer durant la grossesse. Donc on crée vraiment une super ambiance, on s'est rencontré aussi durant la grossesse, et la femme, elle sait qu'elle peut compter sur ces personnes-là. Il y en a bien une dans ce cercle qu'elle pourrait appeler à 3h du matin dans le postpartum, disant « j'en peux plus, mon bébé pleure, j'ai mal au sein, j'en ai marre, pourquoi j'ai fait un bébé ?» Et ben voilà, elle sait qu'il y en a bien une des 10, 12, selon le cercle qu'on se crée, qui sera disponible, et il y aura bien quelqu'un pour amener un plat, quelqu'un pour s'occuper du plus grand. Donc de créer ces liens-là durant la grossesse permet le jour de la naissance ou après, dans le postpartum, d'être soutenue et de continuer d'être soutenue. Et de l'intérieur, c'était super beau, c'est un peu... On vit maintenant plus trop en lien, c'est des familles nucléaires, on n'a plus la vie de village. Mmh. Et là, vous avez réussi à recréer ça. Et je pense que ça participe énormément à se sentir soutenue et dans un cocon pour se sentir confiante le jour de la naissance et du coup après. Et je pense que c'est une des clés vraiment, comme tu le dis, du postpartum. D'avoir cette communauté-là sur qui on peut compter et de pas être seule, parce qu'on a beau croire qu'on peut être superwoman après. Oui, moi je suis vraiment à 100% admirative des femmes et des couples, mais seule, c'est vraiment pas évident.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, j'ai vraiment la sensation qu'avec votre présence en fait dans notre quotidien, parce que enfin vraiment, ce cercle il est pas que tourné vers moi, que tourné vers le bébé, mais il est tourné aussi vers Nicolas, vers le papa.
Ouais.
Vers le couple, vous nous permettez d'avoir des points d'attention, et quand vous voyez qu'on va peut-être un peu trop vite ou qu'on est un peu trop, on fait un peu trop de zèle, etc., vous avez été et vous êtes encore des points d'attention en disant prenez soin de vous, vous avez besoin de quelque chose, est-ce que on peut être là, est-ce que vous avez pensé à ça. Et ça, j'ai vraiment la sensation et bien que ça participe en fait à notre bonheur quotidien qu'on vit aujourd'hui, à la douceur qu'on vit aujourd'hui. Et en plus, vous êtes vraiment en accueil de là où on en est. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on vous envoie des messages quand même en disant « bon ben là, pas du tout ». Et à aucun moment, il y a quelqu'un qui nous dit « oh ben, vous l'avez cherché, tu vois ».
Ouais. Et je me rappelle d'une photo, vidéo, bébé a vraiment besoin d'attention, il est tard, on est quand même vraiment fatigué. Et une autre vidéo, on est vraiment, vraiment fatigué. Et puis, voilà, avec tout le monde qui soutient, qui envoie des super messages d'amour. Et puis dernière vidéo, ok, bébé est endormi dans l'écharpe avec papa et tout le monde est super content. Voilà, ça fait plaisir. Et là, c'était voilà un des exemples de soutien, mais aussi pour l'allaitement. Parce que d'avoir plein de femmes qui ont elles-mêmes allaité, qui ont elles-mêmes eu des étapes à passer, des difficultés, ben là tout le monde a pu partager ça. C'est voilà la vie de communauté, chacun pose son expérience et la femme elle peut piocher dedans et se dire ah oui ok, en fait c'est pas tout rose ailleurs non plus.
Oui.
Tout le monde est passé par...
Et d'ailleurs, je me souviens, à propos de l'allaitement, parce que mes difficultés ont été vraiment juste sur les premiers jours. Donc on s'est vu pas mal au téléphone, de toute façon tu passais régulièrement à la maison pour les consultations, hein, pas en tant qu'amie, c'est vraiment pour les consultations. Mais c'est vrai que vu que t'étais sur le cercle de soutien, il y avait des moments où tu disais bah là tout le monde t'a donné des infos en fait, j'ai pas plus à te donner, ou alors tu disais tu peux rajouter sous telle forme. Et du coup je pense que en tant que professionnelle de l'accompagnement, t'as dû sûrement voir en fait la force de la communauté.
C'est ça. Qui pouvait répondre avant même que j'ai eu le temps de répondre au message et qui avait donné des tas de super infos de qualité et que t'avais déjà pu te trouver ta réassurance en toi avant même que je vois le message. Donc c'est magique. J'ai encore moins de choses à faire, finalement. Donc si tous les couples pouvaient avoir un groupe de soutien comme ça, c'est beaucoup plus léger que de se garder son petit problème, son angoisse qui devient au bout d'un moment un truc beaucoup plus gros et qui a un plus gros impact. Et oui, en effet, là, comme tu disais, on va vers des baby blues et ça peut être vraiment très intense et très long.
Ouais.
Donc si on peut prévenir ça en ayant juste un groupe d'amis bienveillants, c'est quand même vachement cool.
Ouais, complètement, complètement. Est-ce que tu veux donner un dernier petit mot à nos auditeurs sur cette aventure ?
Le mot que j'aimerais partager, c'est faites-vous confiance. Tout est déjà là, en vous, dans toutes les étapes de la naissance et de l'après.
Et entourez-vous.
Et entourez-vous, clairement. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment. Créez votre cercle. Ça coûte pas grand-chose de réunir des amis, de prendre ce temps-là. Et c'est tellement bénéfique, après, essentiel. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur l'accouchement à domicile, je vous invite à aller observer le site de l'APAD, Association professionnelle pour l'accouchement à domicile, l'association nationale qui rassemble des sages-femmes, d'autres professionnels, des parents, pour cadrer cette activité avec des études, etc. Donc vous aurez toutes les infos sur le site. Et le CDAAD, le collectif de défense de l'accouchement à domicile, qui est une association de parents, pour avoir le libre choix du lieu de naissance.
Merci Alexandra pour ton accompagnement, pour ta présence. C'est une bénédiction de t'avoir à nos côtés, vraiment. Merci beaucoup.
On va venir partager.
On mettra les liens en dessous du podcast en description.
Et bien voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. C'est un plaisir de vivre avec vous cette nouvelle aventure. Vraiment, on est ravis de vos retours. N'hésitez pas à mettre des étoiles si vous aimez nos épisodes, à les partager autour de vous. C'est comme le bonheur, c'est meilleur quand on partage. Je vous souhaite une vie douce et joyeuse, alignée sur vos aspirations. Une vie slow. Salut!